Laurent Ganassia est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Bernard.
Laurent, je vais faire de vous un homme heureux. Je vais vous faire écouter quelque chose. Movies are dreams. That you never forget. Le cinéma, c'est des rêves. C'est des rêves que tu n'oublieras jamais. Sammy. Qu'est-ce que c'est beau. Laurent.
Oui.
Dites-nous ce que je viens de vous faire entendre. Et dites-nous pourquoi, effectivement, je suis certain que derrière votre téléphone, vous avez le sourire.
Mais complètement, j'ai un miroir devant moi, donc on ne peut rien vous cacher. Effectivement, ce sont les premières notes de la bande-annonce du film de Steven Spielberg, hein, qui sortira demain en salle, on ne peut pas y échapper. The Fableman, qui est en fait un récit autobiographique des premières années du grand réalisateur, donc de Duel, des Dents de la Mer, de Schindler, d'Indiana Jones. Enfin, on connaît évidemment sa filmographie, et pour la première fois dans toute sa carrière, après 50 ans de carrière, eh bien, le grand Steven se livre...
Alors, ce qu'il fait, exactement ce qu'il fait, c'est que c'est d'abord déjà, c'est une biographie,
ouais.
Mais il explique, un, comment il est devenu Spielberg, ce qui fait que de la première seconde du film à la dernière, on a le sourire parce que on voit comment Mozart devient Mozart.
Exactement. Hein,
on voit comment Spielberg est devenu Spielberg.
Comment Spielberg est devenu Spielberg, et puis surtout qu'en fait, bon, même si c'est un petit peu romancé, hein, puisqu'il a également travaillé avec un célèbre scénariste, hein, avec qui il a ses habitudes, à savoir Tony Kushner, c'est quand même lui qui signe le film, et donc il ne nous l'a fait pas, on sait que c'est lui, c'est pas un autre cinéaste qui, 40 ans après sa mort, va raconter la vie de Spielberg. C'est lui tel qu'il a vécu, avec ses blessures, avec ses fêlures, avec ses espoirs, avec ses frustrations, et c'est ça qu'il y a de magnifique, c'est un film... Oui.
Non, excusez-moi, au contraire, on a envie de vous entendre, vous. Oui, Fableman, c'est son nom. En fait, il ne s'appelle pas Spielberg. Il s'appelle Samuel, il s'appelle Shmuel.
Samuel parce qu'en fait, voilà, il a pas voulu reprendre les noms, les propres noms de sa véritable famille, même s'il l'a recomposée telle qu'elle était, à savoir la mère, qui est aussi le personnage principal donc, du film avec lui, également le père, l'amant platonique, qui a une place considérable dans la jeunesse et l'adolescence de Spielberg, et puis ses sœurs qui ont en fait été ses premières collaboratrices, ses premières actrices, les jeunes filles avec lesquelles donc il a usé de son imagination en les déguisant tout de suite après avoir vu les premiers films enfants, et dès qu'est née cette vocation, on ne va pas raconter le film parce qu'il y a une scène...
Non, mais par contre, j'ai envie que vous m'expliquiez quelque chose et vous expliquiez aux auditeurs quelque chose d'incroyable. Spielberg, oui. Je ne sais pas combien, 80 ans, quel âge il a?
77 ans.
Ouais. Spielberg, c'est toujours le patron. Mais par contre, voilà, c'est ça que je voudrais que vous nous expliquiez. C'est que, normalement, à son âge, ça y est, c'est bon. Même, on s'appelle Martin Scorsese, on s'appelle De Niro. Bon, la carrière, elle est plus ou moins... Vous avez le droit de me contredire, mais bon... Voilà, on a bientôt 80 ans, quoi.
Bien sûr.
Lui, non, attends. Lui, il fait quelque chose d'incroyable. Il fait E.T., il fait Les Dents de la Mer, il fait E.T., il fait Le Soldat Ryan, il fait La Liste de Schindler, il fait West Side Story il y a moins d'un an, il fait Fableman. Et elle est là ma question. Tous les cinéphiles disent, vous avez entendu les films que je viens de dire, hein, le meilleur film de sa carrière, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'à 77 ans, il a sorti un truc, et je ne sais même pas pourquoi je l'ai vu le film, j'ai pleuré, j'ai fait comme tout le monde, j'ai applaudi, j'étais émerveillé, j'ai regardé les vidéos après le film sur YouTube, le vrai fan. Mais je ne comprends pas pourquoi vous, Laurent, pourquoi d'autres que je vois autour de moi me disent « Bernard, c'est son meilleur film. C'est le plus sincère, le plus intime, le plus unique, le plus vrai. C'est le plus poétique. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a ce film ? Que j'ai adoré, mais qu'est-ce qu'il a ce film ?»
Tout simplement, c'est une autobiographie, c'est-à-dire que c'est son film le plus intime, le plus personnel. Alors moi, j'ai toujours beaucoup, on va dire, de distance avec les goûts et les couleurs, à savoir quel est le meilleur film de Scorsese, quel est le meilleur film de Spielberg. Il est clair qu'il y a des films, chaque film ou chaque époque a son film de Spielberg, chaque thématique, que ce soit l'aventure, que ce soit la peur, que ce soit les extraterrestres, que ce soit l'histoire. Voilà, on ne peut pas comparer La Liste de Schindler avec celui-ci, on ne peut pas comparer E.T. Avec Lincoln ou avec d'autres films. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il a de supérieur ? C'est que c'est un film, on va dire, extrêmement sincère. C'est le film le plus personnel de Spielberg. Vous savez, un psychanalyste ou un psychiatre vous le dira, vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, et surtout un artiste vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. La création, c'est avant tout et surtout de la souffrance. On souffre de créer. Quand on est un artiste, il y a une souffrance énorme. Et cette souffrance, cette frustration, elle existe même chez les plus grands génies arrivés, on va dire, au seuil de leur seconde vie, de leur vie éternelle, parce qu'ils sentent qu'ils ont encore un manque, qu'ils ont trouvé au monde entier qu'ils étaient des très grands, mais à eux-mêmes, ils n'ont pas tout livré, ils n'ont pas fini de créer, ils n'ont pas fini de percer les secrets, ce qu'il y a de formidable. Et c'est un petit peu comme un miroir dans ce film-là. C'est un film, on l'a dit, sur la solitude, sur les défis, sur l'accomplissement, comment on échappe à son destin quand on a une famille, on va dire, qui est au bord du gouffre, avec un divorce à l'horizon, avec des incidents antisémites, hein, on va y revenir. Donc,
on va venir à l'antisémitisme, mais ne dites rien sur la famille, ça gâche le film, c'est dommage.
Je veux dire, voilà, exactement. Mais ce qu'il y a de formidable aussi dans ce film, c'est la puissance évocatrice et émotionnelle du cinéma. Et ce que je pense, en fait, c'est avec The Fableman, Steven Spielberg a réussi aussi une sorte de thérapie, un petit peu comme les personnages de ces films, de ce film-là, qui sont complètement conquis par la puissance du cinéma, par la force insoupçonnée, par la force même perverse. Hein, on le voit lors de deux séquences qu'on ne va pas révéler ici et qui montrent à quel point le cinéma est une, comme tout art, et comme le disait Oscar Wilde, est un mensonge qui dit la vérité. Et bien de la même façon, Spielberg lui-même derrière la caméra avec The Fableman se prouve justement qu'en filmant son histoire qu'il avait besoin de voir sur grand écran, il se révèle à nouveau, il révèle une part intime de lui, aussi bien pour les spectateurs, pour le monde entier, que pour lui-même, pour sa conscience, pour la mémoire de ses parents, pour tout ce qu'il a pu vivre et pourquoi il en est arrivé là. Hein. Le cinéma et l'art en général, c'est vrai que c'est une part très universelle et surtout qu'on a la générosité de Spielberg, quelque chose d'immensément collectif, hein, qui s'adresse au monde entier, mais qui est aussi, dans le sens, on va dire, positif du terme, très égoïste. Voilà, on filme aussi, et quand on fait un film aussi intime, on le fait aussi pour lui. Et je pense que Steven Spielberg, pourquoi on ressent cette sincérité, cette émotion et la valeur ajoutée de ce film en particulier, qui n'est pas plus spectaculaire qu'un autre, hein, même au contraire, c'est un film intime, il n'y a pas de grande scène de spectacle comme dans beaucoup de ses films, mais on sent justement qu'il y a une dimension supplémentaire parce qu'elle est née d'une nécessité et du moment qu'il fallait pour, on va dire, filmer cette histoire-là. Il n'aurait pas pu la faire du vivant de ses parents. Il n'aurait pas pu la faire...
Son père est mort un mois avant.
Absolument. Et il a trouvé le bon moment pour l'écrire. Voilà. Toute proportion gardée, un peu quand Louis Malle, dans ses dernières années, a filmé Au revoir les enfants, sur une thématique évidemment complètement différente, mais qui attendait le bon moment pour pouvoir parler de son enfance et du seuil de son adolescence avec cette histoire dramatique qu'il avait vécue. Donc, encore une fois, toute proportion gardée, Steven Spielberg a attendu également ce moment-là, en révélant justement comment le cheminement, l'héritage familial, l'héritage également, alors, on va dire, traditionnel a fait de lui...
Voilà, l'héritage traditionnel, c'est bien, vous me tendez la perche pour qu'on pose la question de la judaïté de Spielberg. Ouais. Autre chose qui est très frappante dans ce film, c'est que on aurait pu imaginer un Spielberg, on dirait presque, excusez-moi, je ne veux pas être grossier, mais d'origine juive, ou avec une culture juive, je ne sais pas comment dire, parce qu'il est tellement universel qu'on ne l'imagine pas faisant Hanouka. Non, juif, il fait Hanouka. Il est, à un moment, il se plaint à son père, on dit, tu nous as mis dans une ville, dans l'Ohio, ou je sais pas, dans l'Arizona, il n'y a pas de juif. Il est totalement juif, Spielberg, le vrai Spielberg, celui qu'on aime, nous. Il a réussi, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Il a réussi à parler au monde entier, et aussi de sa judaïté. L'antisémitisme est terrible, parce que ce qu'il a vécu, c'est...
Je ne suis pas sûr que
moi, en France, ou soi-disant que c'est un des endroits où il y a le plus d'attaques contre les juifs dans le monde, je ne suis pas sûr d'avoir vécu ça. Hein.
Mais alors, on est complètement d'accord. Et moi, ce qui m'a scotché, je ne sais pas si ça vous a fait cette impression, mais moi, j'avais la nette impression de me retrouver face, on va dire, aux brimades antisémites que nous ont rapporté beaucoup de juifs originaires de l'Europe de l'Est,
ouais,
avant-guerre.
Et pas en Amérique.
Pologne, en Croatie, etc., mais pas aux États-Unis.
Pas en Amérique.
C'est assez incroyable. Alors, on savait, hein, évidemment, qu'en dehors des boys qui ont effectué le débarquement et qui sont des véritables héros, Roosevelt et compagnie n'ont pas été, on va dire, des grands philosémites avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, quand même, c'est vrai que c'est quand même très impressionnant parce que ce sont les c'est même pas des clichés économiques, c'est des clichés sur, on va dire, l'antique.
Ouais, il lui dit, comment t'appelles ça, cachère, pour le gars qui lui dit ça, c'est d'un mépris. Cachère, ça veut dire c'est tout ce qui est de plus dégoûtant au monde, quoi. Il lui dit, t'es comment toi, t'es cachère.
Ouais.
Le vrai antisémitisme, la haine du juif. Je suis obligé de conclure, et pourtant Dieu sait, vous savez que les deux films de l'année, Babylone et Fabelman, hein, c'est...
C'est
jusqu'à aujourd'hui, tu regardes l'affiche, c'est...
Et vraiment, je conseille aux familles d'amener leurs enfants, même les plus jeunes,
pour voir Fabelman.
Il dure 2h30, mais on n'a même pas envie qu'il se termine tellement qu'il est beau et plein
c'est
de
incroyable.
Promesses.
Vous vous souvenez, Laurent, quand on était petit, que dans les vitrines des cinémas, il y avait les photos? Et qu'après
oui,
le film, on allait voir. Vous vous souvenez de ça? On allait voir les photos dans la vitrine et on rêvait une deuxième fois.
Exactement. Et ce film montre aux enfants, justement, qu'il faut aller au bout de ses rêves et de sa motivation, qu'on est capable de transcender, on va dire, tous les obstacles et d'y arriver. Ça aussi, pour les enfants qui ont une passion, tout en restant quand même les pieds sur terre, et Spielberg réussit très très bien à l'expliquer, eh bien, ça vaut vraiment le coup.
Deux choses, parce qu'on va revenir à la politique dans un instant avec Cathy Bisseror, qui est à Jérusalem et qui va nous expliquer ce qui s'est passé à la Knesset. D'abord, la première chose, je vous félicite pour votre selfie avec la maman de Spielberg. Je ne mens même pas. Ce monsieur Guénassia est capable, quand vous lui dites on va faire un sujet sur Spielberg, de vous envoyer une photo de lui avec la maman de Spielberg en disant j'étais dans son restaurant cachère à Los Angeles. Grâce à l'UEJF, bravo l'UEJF. Et je ne vous vends même pas. La maman de Spielberg a ouvert un restaurant cachère à Los Angeles et monsieur Guénassia est allé manger son pickle là-bas. La deuxième. C'est même pas faux. C'est même pas une vanne. La deuxième chose, c'est que je vais vous faire écouter une musique et là je vais vous mettre en souffrance parce qu'on n'est pas dans le cinéma. Vous allez me dire, je ne sais pas ce que c'est. On écoute. Laurent, démentez-moi devant des... mettez-moi la honte devant des milliers de gens, vous savez ce que c'est?
Non, le timbre de voix me dit quelque chose, c'est pas Freddie Mercury, non?
Non, c'est de ce calibre-là. Groupe de rock américain Guns N' Roses a annoncé un nouveau concert en Israël qui aura lieu le 5 juin au Parc Hayarkon de Tel Aviv, dans le cadre d'une tournée qui est mondiale, et ils avaient déjà été à Tel Aviv devant 60 000 personnes à l'été 2017. Donc voilà, on est très fiers quand on a des invités de ce calibre à Tel Aviv. Laurent, merci.
Merci Bernard.
Revenez pour nous dire du bien de Babylone, parce qu'il paraît qu'il se fait étrier alors que c'est...
Absolument, mais bon, c'est nul les prophètes en son pays, et Damien Chazelle étant d'origine française, heureusement que la France est là pour pouvoir, on va dire, le soutenir.
Merci à vous, Laurent.
Merci
bonsoir, et bon film.
Bonsoir. Merci.
Bonsoir, Laurent.